Prenons nos Bibles et regardons ensemble de nouveau dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 19. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Je voudrais reprendre un peu ce que nous avons vu la dernière fois et vous parler de la croix du Seigneur Jésus. La croix. Quand on parle de la croix, ce n'est pas simplement du bois utilisé pour crucifier le Seigneur Jésus, mais plutôt tous les événements autour de sa croix et ce que cela signifie pour le salut que le Seigneur Jésus devait accomplir à l'égard de ce peuple que le Père a choisi depuis l'éternité. Quelle justice de Dieu qui exigeait que pour le paiement du péché de son peuple, ça demandait, ça exigeait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement sa mort, mais sa mort jusqu'à la croix. Alors les événements dont nous lisons ici sont importants de comprendre pour mieux comprendre aussi le salut que le Seigneur Jésus a accompli. Donc, ici, dans Jean 19, et nous avons touché un peu sur ces versets la dernière fois, mais je voudrais revenir là-dessus, vu leur importance. C'est écrit, « Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. » D'autres disent que c'était une montagne sur laquelle Christ était crucifié, que de loin ressemblait à un crâne d'un homme. On ne sait pas exactement. Nous savons que c'était un lieu où les pires des criminels étaient mis à mort. Et comme dans Ésaïe, chapitre 53, c'est ça, nous voyons que aucun détail n'échappe à ce qui était déjà annoncé d'avance. Ésaïe, chapitre 53, et le verset 12 dit, « Et qu'il a été mis au, il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Cela nous montre le rôle du Seigneur Jésus-Christ comme le substitut des pécheurs, et c'était pour les pires des pécheurs qu'il est mort. Je sais qu'il y a certains qui ne se voient pas comme les pires des pécheurs, mais nous savons que c'est ce que nous sommes devant Dieu dans notre état de péché dans lequel nous sommes nés dans ce monde. Si nous voulons savoir la gravité de notre péché, il suffit de regarder la manière qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a dû subir afin que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs. Alors, nous lisons dans le verset 18 que c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Il est principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Et Pilate répondit, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. il bat pour chaque soldat. Cela nous montre qu'il y avait au moins 4 soldats romains qui devaient surveiller la crucifixion à la satisfaction de la loi. Et ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrive, notez encore combien de fois cela a répété, cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Cela est tiré des psaumes, psaume chapitre 69 et le verset 22, si vous regardez là avec moi. Donc cela nous montre que lorsque nous lisons les Écritures, nous savons que tout a été déterminé d'avance en ce qui concerne la mort de Christ, ce qui concerne ce qu'il accomplit par sa mort. Et quoique les hommes agissaient selon leur volonté, nous savons que c'était la volonté de Dieu qui était accomplie à cette fin. Dans les psaumes 22, pas 69. Le psaume 69 parle aussi de la mort de Christ et la manière qu'ils ont pris le vin. Et c'était un vin aigri qu'ils donnaient aux gens qui mourait, c'était en fait une manière d'apaiser un peu leur souffrance, mais dans le 69, le verset 22, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Donc même cela a été prédit dans l'Ancien Testament, mais en ce qui concerne la manière que Christ est mort et surtout le fait qu'ils ont pris ses vêtements pour partager, mais ils n'ont pas pu découper le vêtement que Christ portait dans psaume 22 et le verset 19. C'est écrit: ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Donc, ils n'ont pas déchiré son vêtement, mais il y a un des soldats qui a pu prendre cela. Et c'était une manière de s'amuser en regardant ceux qui étaient crucifiés. Mais même en cela, le fait de ne pas déchirer son vêtement, je crois que le vêtement du Christ, spirituellement, représente ce qu'il est devenu dans la chair. Il a pris chair, étant Dieu, et il est venu sur cette terre et il a porté ce vêtement. C'était un vêtement qui était sans couture et d'un seul tissu. Donc, dans son humanité, Christ était unique, mais aussi dans sa justice, parce que ce vêtement peut bien représenter la justice qu'il est venu accomplir et personne ne pouvait découper ça en partie. Christ s'est représenté devant son Père comme l'unique sauveur et aucun homme ne pouvait déchirer ce que qui Christ était et ce qu'il est venu accomplir. Alors il y a beaucoup de leçons certainement que nous pouvons apprendre. Et c'est pourquoi je voudrais revenir sur ces petits détails. Je dis petits détails, mais des détails importants sur la croix du Seigneur Jésus. C'est intéressant de réfléchir et de savoir que quelques jours plus tôt de ce que nous sommes en train de lire ici, lorsqu'il entrait à Jérusalem, il y avait les foules qui criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient dans le nom de l'Éternel. » Et c'était dans toute sa majesté royale qu'il est entré à Jérusalem. Et maintenant, nous lisons qu'il en sort, c'est écrit dans le verset 17, portant sa croix. Mais c'est pour ça qu'il est venu. Il y en a qui disent non, que si les Juifs l'avaient accepté comme le Messie, il n'aurait pas dû mourir. Mais cela va contraire à tout ce que les Écritures annoncent, parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. C'était nécessaire, non seulement qu'il vienne dans ce monde et qu'il vive une vie parfaite, mais aussi qu'il soit soumis à la mort. Parce que la loi de Dieu exige l'obéissance parfaite à cette loi, non seulement dans ses préceptes, mais aussi dans la peine de la mort. Donc pour que Dieu, ou bien le Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu, soit le sauveur de son peuple, il fallait les deux aspects. Nous voyons ça dans Philippiens chapitre 2, lorsque Paul écrit au sujet de l'humiliation du Seigneur Jésus, où il dit dans le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir de notre état devant les hommes. Non, nous ne sommes rien. Et si Christ s'est humilié, lui-même étant le juste, combien plus nous qui sommes des pécheurs, nous devons nous humilier devant lui en tant que pécheurs. Et c'est écrit le verset 6 de Philippiens 2, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Cela nous montre que, quoi qu'ici, nous sommes en train de lire l'histoire du Seigneur Jésus qui devait aller à la mort, mais nous ne devons pas oublier qu'il était en même temps Dieu dans la chair. Dieu n'est pas mort à la croix. C'est le Dieu homme. C'était nécessaire qu'il prenne chair afin d'offrir sa vie. Parce que Dieu ne peut pas mourir, mais en tant qu'homme, il s'est livré à la mort. Ce n'est pas que les gens ont pu saisir de lui et puis le tuer. Non. Tout cela s'est passé conformément à la justice de son père et à ce que son père a exigé. Il était, comme c'est écrit ici, Christ n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 1, nous lisons déjà qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, s'il est venu dans ce monde, verset 7 dit, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, il était le serviteur de son père pour le salut de son peuple. Mais il fallait qu'il passe par ce chemin portant sa croix. Et même ici dans Jean 19, lorsque c'est écrit Jésus portant sa croix, c'est plus que porter le bois. Mais nous arrivons maintenant à ce moment où il devait se livrer à la mort. Voilà ce qui est essentiel à retenir. C'est cette croix de souffrance qu'il devait subir à la place des pécheurs tels que nous sommes. afin que Dieu soit juste. Pour sauver les pécheurs, Dieu n'a pas regardé ailleurs pour, comme s'il ne voyait pas le péché. Non, il fallait que chaque péché soit puni dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et si Christ est mort pour nous, parce que nous savons qu'il n'est pas mort pour tous les hommes, autrement, tous les hommes, tous les êtres humains seraient sauvés, mais il est mort pour ceux que le Père lui a donnés. N'oublions pas ce que nous avons déjà étudié dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, Il a remercié le Seigneur, il a glorifié son Père, ce que le Père lui a donné tout pouvoir, sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. Donc nous sommes en train de lire maintenant comment cela s'est déroulé. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Christ lui-même a dit ça, qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors nous voyons ça. Mais il dit en devenant semblable aux hommes. Ça, c'est aussi une phrase très importante parce qu'il est devenu semblable aux hommes, mais sans prendre en lui la dépravité des hommes. Donc, il est venu comme un homme, mais il était séparé des hommes. De par son obéissance, sa justice, il était un homme sans péché. Il a été tenté en toutes choses sans péché. Donc, en cela, il est devenu semblable aux hommes. Il n'est pas devenu pécheur comme les hommes, mais devenu semblable aux hommes. Dans sa forme, dans sa présence, il était tout entier un homme, comme les autres, mais sans péché. C'est pourquoi c'est écrit de cette manière. Il a pris une forme de serviteur. Il est venu servir à la gloire de son Père à l'égard de ces pécheurs qu'il est venu sauver. Donc, en toute chose, tenté comme nous, mais sans le péché, en ce sens-là, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un saint homme, imaginons, c'est lui qui a créé le monde, qui maintenant marche parmi ses créatures, mais il n'a pas agi en orgueil, en quoi que ce soit, exigeant son autorité comme il devait peut-être demander ou exiger cette gloire parce qu'il est digne de cette gloire. Mais lorsque les gens le voyaient, c'est écrit, il apparut comme un saint homme. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés de se dire, lorsqu'il se comparait à Dieu, qui faisait de Dieu son Père son égal, parce que les gens regardaient un saint homme. Il n'y avait pas une lumière qui brillait au-dessus de sa tête pour indiquer qu'il était Dieu. Les gens le voyant avec des yeux naturels ne voyaient qu'un saint homme. Pourtant, il était Dieu dans la chair. Et cela nous montre encore qu'il faut une révélation spéciale par l'Esprit du Christ au cœur. Parce que même au premier siècle, surtout, imaginons des gens en train de regarder Christ montant vers le lieu du crâne et qui se nomme en hébreu Golgatha. Ils voient un homme dans la souffrance. Physiquement, il n'y a rien qui le distinguait des deux malfaiteurs qui devaient être crucifiés à côté de lui. Et même un de ces malfaiteurs, à la fin, ses yeux étant ouverts, c'est là qu'il a dit à son collègue, l'autre brigand, de se taire. Il a dit, nous méritons ce jugement, mais celui-ci, en regardant Christ, n'est pas digne d'un tel jugement, il n'a rien fait. Alors, comment est-ce qu'il a pu arriver à cette confession si ce n'est l'Esprit de Dieu qui lui a ouvert les yeux pour comprendre que celui qui était là à côté n'était pas un simple homme comme tout autre, mais le roi. C'est pourquoi il a dit à Christ, lorsque tu viens dans ton royaume, il faut se souvenir de moi. Et c'est là que Christ lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà ce que c'est le paradis, c'est d'être avec Christ. Mais comment il a pu arriver à un tel témoignage si ce n'est l'Esprit de Dieu qui lui a ouvert le cœur et qui a révélé Christ en lui? Et je dois dire, c'est la seule raison que nous, aujourd'hui, nous pouvons connaître Christ. Je n'ai jamais vu avec mes yeux. Mais il y avait beaucoup au premier siècle, lorsque Christ marchait sur cette terre, qui l'ont vu de leurs yeux, mais ils n'ont vu qu'un saint homme. Mais tous ceux qui l'ont reçu, comme nous avons vu aussi dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, tous ceux qui l'ont reçu, c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je dois dire, il y a beaucoup de gens qui lisent cette même Bible que nous lisons et ils voient des faits concernant le Seigneur Jésus, mais ils n'ont jamais vu spirituellement le Seigneur Jésus tel qu'il est révélé ici dans les Écritures. Et voilà, Philippiens chapitre 2, verset 8, le verset clé. Il s'est humilié lui-même. Et voilà les deux parties, se rendant obéissant, donc ça c'était la justice satisfaite à travers sa vie, ce que la loi exigeait, il devait être sans péché en ce qui concerne les préceptes de la loi, obéissant, mais noté jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, il y avait des foules qui voulaient prendre le Seigneur Jésus-Christ et voulait le faire tuer dans un tumulte. Nous avons vu ça plusieurs fois à travers les évangiles. Et nous savons qu'il y avait même, par exemple, le cas de Zacharie, fils de Barachias, dans Matthieu chapitre 23 et le verset 35, où ils ont pris un homme qu'ils ont trouvé comme révolutionnaire et ils l'ont tué auprès de l'autel, dans le temple. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 23 et le verset 35, où Christ lui-même a dit « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » C'est ce même tumulte maintenant qui s'est levé contre le Seigneur Jésus-Christ. Et il était tous les jours dans le temple. Alors, on peut se demander pourquoi alors ce n'était pas là que Christ est mort. Et la simple réponse, c'est que Dieu a voulu que cela s'accomplisse à la croix. Parce que la croix représente une méthode réservée pour les pires des pécheurs. Ce n'est pas que Christ était lui-même les pires des pécheurs, mais il est mort de cette manière pour les pires des pécheurs. C'est ça la signification de la croix. Donc même si les gens avaient cette haine pour le Seigneur Jésus-Christ et laissaient à eux-mêmes, il allait le lapider ou bien le faire tuer de n'importe quelle manière, nous voyons en cela la providence, la souveraineté de Dieu qui a ordonné à ce que ça suit un ordre et que sa mort a été effectuée là exactement comme Dieu l'a ordonné en, dans tous ses détails. Même dans le fait qu'il était conduit hors de la ville. C'est pourquoi je voudrais revenir sur ces détails ici, sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. La croix concerne non seulement l'événement de la croix, mais plutôt qui est mort et pourquoi il est mort et la manière qu'il est mort et pour qui il est mort. Voilà la signification de la croix. Comment tout cela s'est passé selon la volonté souveraine de Dieu. Si vous regardez dans Hébreux chapitre 13 et le verset 12, Hébreux chapitre 13 et le verset 12, nous voyons encore ces détails qui sont importants pour nous de comprendre que tout s'est passé selon la volonté de Dieu. Ici, dans Hébreux chapitre 13, par exemple, c'est écrit dans le verset 12, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Cela indique la manière que Christ devait mourir hors de la porte, c'est-à-dire hors de la ville. Et c'est pour nous montrer que avec la mort de Christ, maintenant, il avait un accomplissement, que Christ s'est sacrifié en accomplissant tout ce que les sacrifices, depuis le début jusqu'à là, représentaient, mais ça devait être hors de la ville. C'est-à-dire que ce que Christ est venu initier maintenant, c'est pourquoi c'est appelé le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi, dès ce moment, le temple et les souverains sacrificateurs, les sacrifices, tout cela devait cesser. Mais dans l'aveuglement, les Juifs ont continué à adorer de cette manière, puisqu'ils étaient attachés à les traditions et autres, sans voir que non, le Nouveau Testament, maintenant, en dehors de la ville, ce sacrifice de Dieu où l'agneau était immolé, l'agneau de Dieu, tout cela était afin qu'il y ait une séparation maintenant entre l'Ancien et le Nouveau. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour rétablir encore la loi et les cérémonies, parce qu'il y a maintenant une séparation. C'est pourquoi Christ a souffert hors de la vie. Et c'est pourquoi nous lisons cela dans Jean chapitre 19, que nous sommes en train de voir, et les versets 17 et 18. Selon ce qu'il est écrit, voilà le point clé à retenir là, selon qu'il est écrit. Et donc, encore un accomplissement de ce que Dieu avait déjà ordonné. Alors, comme nous avons remarqué, il est entré à Jérusalem dans toute sa majesté royale, mais il en sort maintenant portant la croix. Et nous voyons le même contraste dans l'écriture que Pilate a placé sur la croix. Il a dit, roi des Juifs, mais aussi, verset 19, Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen. Ça indique le lieu où il a été élevé. Nazareth était au nord du pays. Mais dans ces deux expressions, nous voyons encore prophétiser le fait que Christ était un homme, Jésus de Nazareth, mais Dieu, roi des Juifs. Nous ne pouvons pas prêcher la croix, nous ne pouvons pas prêcher le Christ de la croix comme il faut si nous ne prêchons pas ces deux aspects. Son humanité, mais en même temps sa divinité. Et il est crucifié entre deux autres. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Toutefois, cet évangile nous montre alors pourquoi il est venu. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas seulement les événements de la croix, mais la personne du Christ qui il est démontré dans cette déclaration de Pilate, quoiqu'il n'était pas lui-même un croyant, mais il a dû écrire exactement ce que Dieu, dans son dessein éternel, lui a donné d'écrire. Donc, cela, nous voyons dans sa personne le Dieu homme, mais nous voyons aussi le pourquoi de sa mort. Il a été crucifié entre des malfaiteurs. Et cela nous montre qu'il est mort, il a pris la place, il était là comme le substitut des pécheurs tels que nous sommes. Alors, dans chaque détail, nous remarquons que cela s'est déroulé selon les Écritures, et nous avons déjà vu cela. Je crois que nous allons devoir nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cela nous montre que dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous avons toute la déclaration de l'Évangile que nous avons à annoncer. Qui il est? Souvent les gens demandent, mais résume pour moi l'Évangile. Bon, ça concerne qui il est. Ça c'est Christ comme le Dieu homme, Dieu dans la chair. Mais aussi pourquoi il est mort. Cela est évident que c'était pour prendre la place des pécheurs tels que nous sommes, pas pour tous les êtres humains, mais pour ceux que le Père lui a donnés. Mais lorsque aussi nous réfléchissons à cela, nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il a accompli au juste? Est-ce que par sa mort, il a effectivement sauvé son peuple ou pas? C'est sur ce point que nous séparons de ce Jésus populaire qui est prêché de nos jours, qu'il est venu, il a donné sa vie en rançon, mais hélas, il attend ce que les hommes acceptent, autrement, il a versé son sang en vain. Ça, c'est le message populaire, mais ce n'est pas le message de la Bible. Nous savons que tellement il a satisfait la justice de Dieu sur la croix, par sa vie parfaite, mais aussi à travers sa mort. La justice de Dieu étant satisfaite, cela veut dire qu'il ne reste plus rien que d'imputer ou bien de mettre au compte de ces pécheurs pour qu'il est mort toute la justice de Dieu. Je vais terminer avec ce passage dans Romains chapitre 3, où nous lisons ici dans les versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Le mot victime propitiatoire veut dire substitution propitiatoire qui satisfait à la justice de Dieu. Comment? Par sa mort. Quand est-ce que Dieu a une fois pour toutes justifié, déclaré juste les pécheurs pour qui Christ est mort? C'est à la croix. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'ont jamais compris cela. Ils continuent à prêcher puisqu'ils lisent la phrase justifié par la foi, et les ah, donc, cela veut dire c'est par ma foi personnelle que je suis justifié, non. Justifié par la foi signifie justifié par celui qui est annoncé par la foi. La foi signifie l'évangile, c'est la déclaration de Dieu dans l'Évangile au sujet de Christ et Christ crucifié et donc justifié par la foi, justifié selon ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est que Christ est cette victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuner les péchés commis auparavant. Ça parle de ce que Christ ou Dieu a sauvé dans l'Ancien Testament et laissé impuni leurs péchés. Cela veut dire qu'à travers les sacrifices qui étaient offerts, le péché était couvert pendant un certain temps. Mais c'est écrit au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Donc, comment est-ce que la justice de Dieu a été manifestée dans le temps présent? C'est à la croix. C'est à la croix que nous comprenons maintenant que oui, lorsque Christ est mort, cela a payé la dette de tout son peuple de l'Ancien Testament, ainsi que tout son peuple depuis la croix jusqu'à la fin du temps. Une place, un sacrifice, une justice satisfaite. Cela veut dire que lorsque je suis né dans ce monde, quoique pécheur, mais déjà justifié, comment? Par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'était nécessaire que l'Esprit de Dieu révèle Christ en moi lorsqu'il a plu à Dieu. Il ne pouvait pas me laisser continuer dans mon aveuglement. Parce que tous ceux pour qui Christ est mort, que Dieu a déjà justifié à la croix, il faut qu'il les amène et leur donne son esprit pour le connaître. De manière, c'est écrit ici dans Romains 3, 26, à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Comment est-ce qu'on a la foi en Jésus si ce n'est le don de Dieu? C'est Dieu qui donne cette persuasion qu'il n'y a pas de salut ailleurs qu'en Jésus-Christ. Ça, c'est le message de la croix. Donc, nous ne devons pas perdre de vue cela tout en lisant ces événements pour être distrait en voulant simplement reviser les événements. Non, c'est qui est mort, mais pourquoi il est mort, et ce qu'il a accompli par sa mort, et pour qui il est mort. Tout cela, la réponse est dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur soit loué en tout ce que nous venons d'entendre. Amen.